La clôture du 107e congrès des maires à Paris a été refermée par le Premier ministre après la diffusion d'un message vidéo de Pascal Vittori. Informé sur la fin de vie, c'est aujourd'hui la 4e édition du Forum des soins palliatifs. Il a lieu à la FOL. En métropole, l'adoption du budget avant la fin de l'année semble impossible. L'exécutif envisage une solution transitoire par le biais d'une loi spéciale. La Red Week, événement destiné à alerter sur la persécution de 400 millions de chrétiens dans le monde, une grande veillée de prière était organisée à Notre-Dame de Paris. Et puis football, dernière étape pour la sélection calédonienne sur la route de la Coupe du Monde. Elle devra jouer les barrages intercontinentaux et venir à bout de la Jamaïque, puis du Congo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les vendredis par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et vous recevrez cette semaine le président de l'UPM.
Oui, c'est Victor Sotogoro qui sera l'invité du magazine Transparence. Il fait l'actualité puisque son parti a officialisé sa sortie du FLNKS lors de son 42e congrès qui se tenait le week-end dernier à Ponérébois. Victor Sotogoro qui sera interrogé sur cette décision de départ du FLNKS, bien sûr, mais aussi sur la visite de la ministre des Outre-mer ou encore sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie du président de l'UPM.
Et on vous retrouvera aussi à 16h45 pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire du Club Politique ce soir, le bilan de la visite de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, et notamment l'annonce de la consultation citoyenne anticipée. Nous reviendrons également sur le 42e congrès de l'UPM et sa décision de sortir du FLNKS. Et puis nous évoquerons enfin la place de la Nouvelle-Calédonie dans le débat budgétaire. Un club politique qui, vous le disiez, commence ce soir à 16h45.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé cette nuit pour nous la séance de clôture du 107e congrès des maires de France au Parc des Expositions en région parisienne. La séance a débuté par un message vidéo de Pascal Vittori, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie et maire de Bouloux-Paris. Dans ce message, il a alerté le Premier ministre et ses collègues maires sur la situation des communes calédoniennes.
Après les troubles de mai 2024, la situation financière des communes de Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un contexte très contraint. Les recettes de fonctionnement des communes ont baissé de 10% en 2024 et de 13% en 2025. La crise repose sur une croissance fiscale nulle en 2026. Le retour progressif à l'équilibre est espéré en 2031, sous réserve d'une stabilité politique retrouvée et d'une relance économique effective. En 2025, l'État apportera, comme en 2024, un soutien ponctuel dans le cadre d'un dispositif de solidarité républicaine et nous en sommes très reconnaissants.
Un tiers de cette aide ira directement aux communes pour financer des actions sociales, indique Pascal Vittori. Cela, dit-il, ne compensera pas durablement la baisse des recettes, mais constitue un signal fort de solidarité nationale. Le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie relève également le travail de la mission interministérielle pour préciser que les collectivités calédoniennes sont impliquées pleinement dans cette démarche de reconstruction. Il ajoute que dans ce contexte, les communes doivent anticiper un cycle pluriannuel d'austérité budgétaire. Mais pour lui, cette période peut aussi être l'occasion de réformer et d'innover.
Pour réussir, deux conditions sont essentielles. Réduire le délai entre décision et mise en œuvre, car aujourd'hui, 2 ans s'écoulent entre une décision et sa réalisation sur le terrain. Garantir une visibilité financière dès 2026 et au-delà pour permettre aux communes d'anticiper et de répondre efficacement aux besoins de nos populations et du tissu économique. Ensemble, avec rigueur et créativité, nous pouvons transformer ces contraintes en opportunités pour bâtir des communes plus proches, plus solidaires et tournées vers l'avenir. Encore une fois, merci de votre soutien. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.
Et en prenant la parole en clôture du Congrès des maires, le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué Pascal Vittori et les Calédoniens. Dans l'actualité institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, les élus de Dumbéa étaient réunis hier en fin d'après-midi pour l'avant-dernier conseil municipal de l'année. Séance qui s'est ouverte par un hommage du maire de la commune, Johan Lecourieux, à Natsumi Wainebengo, qui s'est éteinte mercredi à 37 ans des suites d'une longue maladie. Natsumi était depuis 2021 chef de la cellule de la vie associative de la ville de Dumbéa, Lionel Sabot.
Et après une minute de silence en hommage à la jeune femme, les conseillers ont examiné les 10 délibérations qui étaient à l'ordre du jour. Parmi ces délibérations, celles concernant le débat d'orientation budgétaire, exercice obligé qui permet à l'exécutif de faire un point de situation en fin d'exercice budgétaire et de tracer les premières grandes lignes du budget de l'année suivante. Johan Lecourieux, le maire de Dumbéa.
Les perspectives budgétaires données par la Nouvelle-Calédonie sont assez floues et donc il est difficile de construire à l'heure actuelle un budget 2026 mais encore moins des perspectives 2027 pour les communes calédoniennes.
Quelles vont être les grandes perspectives pour 2026?
Pour 2026, c'est avant tout poursuivre tous les travaux de reconstruction débutés en 2025 et que nous sommes obligés de justifier à l'État. Donc nous allons poursuivre, ce qui permet de redonner énormément d'équipements publics aux Dumbéens. de poursuivre aussi tout ce qui est relatif aux aménagements de sécurité, c'est-à-dire l'éclairage, les caméras de vidéosurveillance et de l'équipement de la police municipale, ce qui permet d'asseoir une ville dans la durée.
Autre délibération adoptée hier soir par les élus de la commune, celle validant le dispositif de dotation de solidarité républicaine. La commune de Dimbéa se voit dotée de 191 millions de francs supplémentaires. Cette délibération a été adoptée à l'unanimité, malgré quelques interrogations des élus de l'opposition municipale par la voix de Cynthia Jean, chef du groupe Les Loyalistes, le Rassemblement Dimbéa.
On est évidemment satisfait de ces aides que nous apporte l'État. On peut regretter malgré tout que, évidemment, ces subventions octroyées par la Nouvelle-Calédonie aux communes proviennent d'un prêt de l'État, prêt que la Nouvelle-Calédonie devra rembourser. C'est pour ça qu'on persiste à dire que les Calédoniens qui vont devoir se prononcer bientôt sur Bougival devront voter à une large majorité cet accord puisqu'il prévoit la transformation des prêts en subventions. On a également regretté le manque d'explications et de transparence sur le devenir du centre culturel brûlé, détruit pendant les émeutes, le studio 56. On regrette pour le moment l'absence totale de projets de reconstruction de centres culturels. C'est d'autant plus dommage que l'État le finance.
Le prochain conseil municipal de la ville de Dimbéa se tiendra le 18 décembre prochain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Selon vous, l'État va-t-il finalement transformer en subvention les différents prêts contractés par la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le Haut Commissariat a raison d'interdire certaines armes blanches comme les couteaux dits zombies ou les coups de poing américains. Ils sont 24% à penser qu'il a tort de les interdire.
À Radio Rythme Bleu, 11h37.
En bref, NCT assure que la Nouvelle-Calédonie regagne la confiance de l'ensemble de ses marchés touristiques prioritaires. Mardi, le Japon a passé son niveau d'alerte de 2 à 1, puis la Nouvelle-Zélande a décidé de classer la destination au niveau de vigilance 2 sur 4. Une décision qui vient légitimer le travail de rassurance et d'attractivité mené sans relâche par Nouvelle-Calédonie Tourisme, peut-on lire dans ce communiqué. Et puis dans l'actualité en Calédonie également, le tribunal administratif Nicolas Legrand qui donne raison au syndicat des importateurs.
Oui, il avait attaqué la décision du gouvernement d'exonérer de droits de douane la société Lefroy qui, depuis la destruction de son outil industriel à Montravel lors des émeutes insurrectionnelles, fabrique ses boissons dans la région avant de les importer en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal estime que le gouvernement ne pouvait pas prendre cette décision qui revient au Congrès. Lefroy a donc bénéficié de 200 millions de francs d'exonération par ses arrêtés du gouvernement qui ont été suspendus. Reste à savoir si la société devra s'en acquitter après cette décision de justice. Les services juridiques du gouvernement travaillent actuellement sur la question. Les dernières exonérations adoptées en septembre ne sont pas concernées par la décision du tribunal administratif car entre-temps une loi du pays a été adoptée par le Congrès pour fixer le cadre de ces exonérations.
FO Justice tire la sonnette d'alarme après deux agressions survenues avant-hier au centre pénitentiaire de Nouméa. D'abord à la maison d'arrêt des femmes, une surveillante a été violemment prise à partie par une détenue, mordue violemment. Un morceau de son doigt a même été arraché. Un peu plus tard, un autre agent a reçu un coup de tête d'un détenu, le blessant au visage. FO Justice dénonce une situation devenue intenable et pointe un manque de personnel ainsi que l'inaction de la direction. Le syndicat réclame des sanctions immédiates contre les agresseurs et un audit complet de l'établissement. C'est dimanche que débutera officiellement l'édition 2025 de la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets. Pendant 8 jours, les différents partenaires de l'événement qui est coordonné par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, proposeront un certain nombre d'animations pour la sensibiliser le public à la prévention de déchets. Caroline Nicolo est la représentante territoriale de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie.
Le but de cette semaine, c'est de s'interroger sur nos modes de consommation et de production et donc de viser la réduction de nos déchets en Calédonie. Tout le monde peut contribuer, à la fois les particuliers, les entreprises, les collectivités, les associations. Et donc les partenaires proposent des idées, des choses un peu innovantes. Une action Repair Café à Nouméa le 29 novembre, où là les particuliers viennent avant 10h le matin, c'est un magenta, avec des appareils électroménagers, du petit électroménager qui est en panne. Et donc ils viennent avec leur appareil et le but c'est qu'on leur apprenne à réparer leur petit appareil. C'est pas on vient et quelqu'un répare pour nous. Non, non, le but c'est on a des réparateurs et ils transmettent. Il y a une question de transmission du savoir. On apprend à réparer et on repart avec son petit appareil que l'on a réparé. C'est hyper satisfaisant.
Le thème de cette semaine européenne et cette année, les D3E, comprenaient les déchets d'équipement électrique et électronique qui regroupent tous les appareils fonctionnant grâce à l'électricité ou contenant des composants électroniques. Quand la parole se libère sur la fin de vie, le réseau de soins palliatifs de Nouvelle-Calédonie organise ce vendredi à la FOL la 4e édition du Forum des soins palliatifs, Léo Fichou.
Une journée fédératrice, informative, qui a commencé par une formation à destination des aidants et qui vient d'ailleurs de se terminer il y a quelques minutes, une formation intitulée « Appréhender les enjeux de la fin de vie ». Place désormais un temps d'échange autour d'un pique-nique avec le docteur Hayon, responsable de l'unité soins palliatifs du CHT. Cet après-midi, des cafés partage, une conférence et un spectacle d'impro seront proposés avec toujours le même objectif. David Bilbaud, chargé de projet de l'association du réseau de soins palliatifs de Nouvelle-Calédonie.
L'objectif global de cette journée, c'est vraiment de sensibiliser le grand public à ce que sont les soins palliatifs, c'est-à-dire apprendre à parler des sujets comme la mort, la maladie, la fin de vie, comme d'un autre sujet, comme d'un autre grand événement de la vie que pourrait être une naissance, un mariage ou autre chose. La douleur engendrée par le deuil, la perte, la maladie, il est aussi causé par le tabou qu'il y a autour de ça. Ça sera toujours difficile de perdre un proche, mais le fait que ça soit difficile de mettre ça sur la table, ça complique les choses et ça rend souvent les choses encore plus difficiles.
La journée se terminera aux alentours de 18h30 avec un ciné-débat autour du film Better Off Dead. Ça se passe toujours du côté de la FOL.
Il sera 11h42 dans quelques secondes, la première pause de ce journal. Et dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, parois de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Un coup de chaud? Pas de souci. À la Quincaillerie calédonienne, on a tout pour rester au frais. Brasseurs d'air, ventilateurs sur pied, muraux, de bureaux ou sans fil, retrouvez notre catalogue ventilateur sur Facebook. La Quincaillerie calédonienne, 13 rue Ampère, à Ducos.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole et selon toute vraisemblance, aucune majorité ne devrait se dégager pour adopter le budget 2026 actuellement en discussion au Parlement d'ici la fin de l'année. Pas de majorité, voire une unanimité pour le rejeter. La France ne peut pas rester sans budget et pour éviter un blocage institutionnel, l'exécutif pourrait avoir recours à une loi spéciale, a indiqué le ministre des Relations avec le Parlement. Si elle ne remplace pas un budget, cette loi spéciale met en place une situation provisoire jusqu'à l'adoption de la loi de finances en début d'année prochaine. Arthur Delaborde pour Europe 1.
En optant pour une loi spéciale en cas de blocage, Sébastien Lecornu écarte les deux autres options envisageables. D'abord le 49-3, conformément à la promesse du Premier ministre. Et puis la solution jugée tout aussi brutale, les ordonnances qui auraient presque à coup sûr conduit à une censure du gouvernement. Mais attention, la loi spéciale n'est pas une baguette magique. D'un point de vue comptable, elle creuserait un peu plus les déficits. Et surtout, elle ne serait que provisoire. Car quoi qu'il arrive, le gouvernement devrait remettre un budget sur la table. Concrètement, les débats reprendraient début janvier pour s'achever en février. Autrement dit, cette option permettrait à Sébastien Lecornu de gagner du temps, de passer les fêtes au calme, mais il se retrouverait dès le début de l'année exposé à une nouvelle menace de censure. En réalité, avec cette loi spéciale, le Premier ministre ferait un pari, celui de prolonger le marathon budgétaire pour se rapprocher des municipales de mars, avec un espoir en tête qu'à l'approche du scrutin, les députés, notamment socialistes, choisissent la carte de l'apaisement en refusant de faire tomber le gouvernement.
La France France doit être prête à perdre ses enfants en cas de conflit avec la Russie, même si ce n'est pas sur le sol français, mais dans un pays de l'Est, membre de l'OTAN menacé par Moscou. L'intervention du chef d'état-major des armées devant les maires de France réunis en congrès fait toujours couler beaucoup d'encre, mais pas question de désavouer le général Fabien Mandon. Au contraire, son porte-parole, au cours d'un point presse, a évoqué non pas un discours va-t-en-guerre, mais un simple rappel.
Subir une guerre de haute intensité, ça veut dire envisager des pertes. C'est entre 200 et 1000 morts par jour. Un pays qui n'est pas prêt à connaître ça, c'est un pays qui est faible. Et s'agissant du terme... enfants, ce sont les enfants de la nation, les armées sont les enfants de la nation.
Les déclarations du général Fabien Mandon ont suscité des réactions politiques. Sébastien Chenu pour le Rassemblement national ou encore Jean-Luc Mélenchon pour LFI dénonce un discours excessif, ce qui a fait réagir la ministre des Armées Catherine Vautrin.
Bien sûr, nous devons entraîner nos armées. Il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Il n'y a pas de place pour la polémique.
Et rappelons que l'emploi de l'armée dans un conflit est de la prérogative du président de la République, mais il doit avant cela en référer au Parlement. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et son collègue de l'Intérieur, Laurent Nunez, étaient à Marseille la nuit dernière pour nous, deux jours après l'assassinat de Mehdi Kessassi, le jeune frère d'un militant qui lutte contre le narcotrafic. Les deux ministres ont d'ailleurs mis sur le même plan la lutte contre le trafic de drogue et la lutte contre le terrorisme. Pas d'annonce lors de ce déplacement, mais un plan de relance de la filière investigation serait en préparation. Sébastien Graineron est le secrétaire départemental du syndicat Alliance.
Ils vont parler d'un millier d'effectifs qui arriveraient en France. Il y en aurait 700 qui iraient en investigation. C'est très bien. Tu vas mettre des jeunes policiers qui sortent d'école. Si tu mets pas des enquêtes de qualité et que tu ramènes pas des preuves devant la justice, on pourra pleurer que derrière, il n'y a pas de réponse pénale. Les magistrats, ils sont là aussi pour juger avec des éléments concrets. C'est le chat qui se mord la queue, en fait.
C'est la réaction donc de Sébastien Graineron, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance. Il y a 10 ans, la Red Week était lancée depuis le Brésil. Cette opération mondiale vise à alerter sur le sort des quelques 400 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Opération relayée en France par l'association Aide à l'Église en détresse. Plusieurs bâtiments publics ont été éclairés en rouge et une grande soirée de prière était organisée à Notre-Dame de Paris. Wilfried de Villers pour Europe 1.
La nuit des témoins, c'est le nom de cet événement organisé dans le cadre de la Red Week, la semaine rouge. De nombreux bâtiments religieux et historiques dont Notre-Dame sont éclairés en rouge depuis hier en France. Objectif, sensibiliser sur la situation des 380 millions de chrétiens victimes de persécutions dans le monde. Un sujet essentiel pour Emmanuel.
Ça me paraît important parce qu'on ne parle pas suffisamment des chrétiens qui sont maltraités. Il y a beaucoup de pays où malheureusement, ce n'est pas possible de vivre sa foi tranquillement. Il faut qu'ils se sentent soutenus par les chrétiens qui ont la chance de vivre dans des pays... où il n'y a pas de problème.
Ce soir à Notre-Dame, 3 témoins, dont un prêtre nigérian et une religieuse indienne, ont témoigné de leur quotidien marqué par les discriminations dans leur pays. Des témoins qu'a rencontré Hermine aujourd'hui.
Ça nous fait prendre conscience que nous, on aura une chance inouïe de pouvoir vivre notre foi, de pouvoir s'exprimer librement. Et de venir ici, c'est prendre conscience aussi que, voilà, on n'est pas tous égaux dans le monde. Et qu'en 2025, il y a encore beaucoup de chrétiens persécutés.
À la fin de cette veillée à Notre-Dame, les noms des chrétiens tués dans l'année ont été égrenés, leurs portraits portés en procession jusqu'à l'hôtel de la cathédrale.
Wilfried de Villers pour Europe 1, 11h48. Une nouvelle pause dans ce journal et ensuite on se retrouve pour développer toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Avec Canal+, les fêtes s'annoncent généreuses. Offrez-vous le meilleur du cinéma ultra récent, les plus belles rencontres sportives et les dernières séries à dévorer. Mais pas que. Pour tout nouvel abonnement Canal+, repartez avec une Smart TV 4K QLED 126 cm pour seulement 5 francs de plus. Faites-vous plaisir et à vous les soirées cinéma à la maison en 4K. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois aux formules Sélection Plus, Essentiel Plus, Premium Plus et Ultimate Plus, un téléviseur Smart TV 4K Hisense QLED est remis pour 5 francs de plus. Offre soumise à condition, valable en Nouvelle-Calédonie dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur www.canalplus-calédonie.com.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 29 novembre de 9h à 16h. Le deuxième SAO, Salon des auteurs en off. Débat sur la place des femmes à 9h30. Débat sur la géopolitique de la Nouvelle-Calédonie et l'Indo-Pacifique à 14h. Conteur, atelier d'écriture, stand-up, lecture, exposition de Stéphane Foucault, vente de livres, dédicace avec 35 auteurs présents le samedi 29 novembre à l'Amirauté. Viens croquer un SAO et dévorer un bon livre. Entrée gratuite.
À l'occasion de la Journée mondiale des pêcheurs artisans et travailleurs de la mer, la Chambre d'agriculture et de la pêche organise la 3e édition de Cap sur la pêche, samedi 22 novembre de 7h30 à 13h30, toujours au quai des pêcheries, au port autonome de Nouville. Au programme, marché de produits de la mer, visite de navires de pêche et sensibilisation à la sécurité des navires, cooking show, exposition et animation. Samedi 22 novembre, entrée face au lycée Jules Garnier.
Rendez-vous samedi 6 décembre, parc provincial de la Rivière Bleue pour une grande journée porte ouverte. Venez redécouvrir le Grand Sud, ses activités et ses paysages magnifiques. Au programme, initiation sportive, marché, rencontres et belles surprises. L'entrée est gratuite et les navettes aussi. N'oubliez pas, c'est le 6 décembre au parc provincial de la Rivière Bleue. Toutes les infos sur province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport ? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer avec du football. Léo Fichou, le tirage au sort des barrages intercontinentaux. Dernière étape avant la phase finale de la Coupe du Monde a eu lieu hier soir et la Nouvelle-Calédonie connaît désormais son adversaire.
Et c'est Christian Carambeu qui a eu la lourde tâche d'effectuer le tirage au sort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Calédonien n'a pas été clément avec les cagoules. La Nouvelle-Calédonie, 149e au classement mondial, sera opposée à la Jamaïque, 70e. Ce sera en demi-finale des barrages intercontinentaux. En cas de victoire, les joueurs de Johan Zidaner affronteront la République démocratique du Congo, 56e mondial en finale. Écoutez la réaction du sélectionneur calédonien.
Ce n'est pas le tirage le plus simple, puisque nous pouvions espérer tomber face au Suriname. Maintenant, c'est sur un match, et effectivement, même si la marche est haute, on est en droit de rêver. En tout cas, on préparera ce match avec un grand sérieux, même si... On ne connaît pas si bien que ça la Jamaïque, mais au niveau culturel, c'est une île et effectivement, l'affiche est fantastique de ce point de vue-là. Mais à partir du moment où on veut jouer à la Coupe du Monde, on sait que ça va être sévère. Donc voilà, on va bien se préparer, mais en tout cas pour l'instant, on savoure quand même.
Les barrages intercontinentaux auront lieu fin mars au Mexique. Je rappelle donc que la Nouvelle-Calédonie défiera la Jamaïque en demi-finale, puis la République démocratique du Congo en cas de victoire. Dans l'autre partie du tableau, la Bolivie et le Suriname s'affronteront en demi-finale. Le vainqueur sera opposé à l'Irak en finale. Seulement deux équipes obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin et en juillet.
Le football toujours avec ce matin la fin de la 4e journée de la phase de Ligue des champions féminines. Le PSG s'est incliné 3-1 face au Bayern Munich. 4e défaite en 4 matchs pour les Parisiennes, qui pointent donc à la dernière place. Hier, le Paris FC a dominé le Benfica Lisbonne 2-0 et l'Olympique Lyonnais a fait match nul, 3-3 face à la Juventus. Le Paris Football Club est 12e sur 18 et les Lyonnaises sont en tête à égalité de points avec le Barça. Et puis un mot de rugby. Vous le savez sans doute, le 15 de France termine ses tests match d'automne dimanche matin. Ce sera face à l'Australie. On notera dans l'équipe de France les retours de Gaël Ficou, Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou. Le brassard de capitaine sera porté par Grégory Aldrit et le Calédonien Rodrigue Netti sera lui sur le banc des remplaçants. On en vient au sport dans la région avec la Ligue des champions d'Océanie de futsal et la SPTT n'a plus le choix. Il faut gagner pour se qualifier.
Les Calédoniens seront opposés dans quelques minutes dès midi au Papou du Golf Comara Futsal Club. Ce sera leur dernier match de la phase de groupe. La victoire est effectivement obligatoire, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi espérer un match nul entre le Matax FC et le Southern Legion FC pour terminer à la deuxième place, ce qui serait synonyme de qualification pour la grande finale.
Et sur le territoire, un événement BMX Race demain, la toute première édition sur la nouvelle piste de Tina. Mercredi, les jeunes s'entraînaient pour la dernière fois avant le grand jour.
Et oui, demain, ce sera la dernière épreuve du TRJC, le trophée régional des jeunes cyclistes, un trophée multidiscipline, épreuve de route, VTT et donc BMX Race sur piste. Ils seront plus de 60 au départ sur la toute nouvelle piste de Tina. Des plus jeunes, les U7, moins de 7 ans, aux U15, les moins de 15 ans. Mercredi après-midi, ils ont profité des derniers conseils de leur coach, Brian Pieracci.
Les garçons, aujourd'hui, dernière session avant la compétition de samedi. On va checker tous les vélos complets. Et sinon, à part ça, on fait le travail de grille. Vos petits points faibles, c'est aujourd'hui qu'on les fignole, qu'on les travaille. Ok, stay focus pour samedi.
Ça va être cool, on va pouvoir prendre la température sur justement ce qui s'est passé les premiers mois, les premiers entraînements qu'on a fait. C'est une chance d'avoir ça aujourd'hui pour pouvoir bien travailler. Et puis on verra à l'avenir où c'est qu'on pourra amener les jeunes.
Allez, s'il te plaît.
J'aime vraiment parce que c'est agréable, parce qu'on est très bien protégé et du coup bah, t'as pas peur, tu peux t'en lancer sans hésiter.
J'aime bien parce que ça y a de la vitesse, plus on en fait plus on a moins peur.
Le truc qui me plaît c'est la grande pente.
Moi j'aime bien, c'est qu'on s'amuse sur le vélo. Moi j'aime bien.
Hein. C'est la sensation et aussi quand on va vite et aussi la descente, j'aime bien.
J'adore faire des sauts et aussi j'aime bien la sensation quand la grille tombe.
Pour découvrir le BMX Race et encourager les jeunes en compétition, rendez-vous demain de 13h à 18h sur la piste de Tina.
Les hommages continuent d'affluer après le décès de Natsumi Wainebengo. Ce matin, le gouvernement présidé par Alcide Ponga rend hommage à une actrice majeure du développement sportif en Nouvelle-Calédonie. Natsumi Wainebengo laisse derrière elle un héritage fort dans le milieu sportif par son engagement associatif, peut-on lire dans ce communiqué. Le gouvernement adresse ses plus sincères condoléances à la famille, à ses proches et à ceux qui ont eu la chance de la côtoyer au cours de sa carrière. Pour terminer ce journal, parlons du club des Naïades de Nouméa qui organise ce soir son gala Splash Circus. C'est à la piscine du Wentoro en collaboration avec l'école du cirque. Ce spectacle mettra en avant les ballets présentés aux Océaniens en Nouvelle-Zélande au mois de septembre dernier où les nageuses ont d'ailleurs rapporté plusieurs médailles. Écoutez Sandrine Ladrec, elle est présidente du club des Naïades de Nouméa.
Nous allons avoir des enchaînements de ballets d'équipe, de solo, de duo et des numéros de la compagnie du cirque de Nouvelle-Calédonie. Au niveau du club de natation artistique, le club des Naïades de Nouméa, il y aura une trentaine de nageuses dans l'eau et le cirque évoluera avec ses participants. Il y aura quatre numéros de cirque aérien, du jonglage et sur la terre aussi.
Le spectacle débute donc à 19h à la piscine du Wentoro, entrée fixée à 2000 francs, mais elle est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.